Musique du monde. Laurence Alloa. Tegui Mfatroré. Musique du monde sur RFI.
Bienvenue dans la session live qui reçoit aujourd'hui un piano et une guitare. Mais derrière des instruments, il y a des humains. Il y a la voix de Tiwayo et de sa guitare accordée en sol majeur, excellent. Et puis les touches suaves de Giovanni Ceccarelli autour du répertoire de Tom Jobim. Ça, c'est le Brésil qui nous fait rêver. Tiwayo en piste pour le titre « A Place to Call My Own ». Avec le titre A Place to Call My Own, cet extrait de votre premier album en fait, Rémi. Je vous appelle Rémi parce que je vous ai connu tout petit. Tiwayo, c'est votre nom d'artiste. Cet album, vous l'avez fait aux États-Unis. Je rappelle tout de suite, comme ça c'est fait, j'oublie pas que vous serez en concert à Paris à la Maroquinerie le 5 mars pour ce qu'on appelle désormais les célèbres release parties, les concerts de sortie d'album. Premier album que vous avez fait aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, enregistré sur un 16 pistes. C'était le rêve de toute une vie.
C'est vrai que cet album, il a pris un peu de temps à se faire.
10 ans.
C'est 10 ans, ouais, donc c'est un chemin, c'est beaucoup d'expériences avant, beaucoup de rencontres. Je pense que j'ai pris ce temps à la fois pour développer mon son et trouver une couleur, ma couleur. Et puis, c'est vrai que j'avais ce rêve de travailler avec un producteur américain, puisque je suis en partie très influencé par la musique américaine. Et donc, Mark Neal, donc voilà, qui. producteur que j'aimais, pour son travail notamment avec les Black Keys.
Il a eu un Grammy Award en 2011 pour l'album Brothers,
voilà.
Tout à fait.
Ouais, superbe album. Et donc,
vous êtes allé au culot, vous l'avez contacté, vous avez répondu et puis ça marchait.
Exactement.
Bah, c'est
exactement.
Comme ça qu'il faut faire.
Bah, je crois aussi. Ouais.
Bah, oui.
Bon, c'était le rêve. Hein. Et puis bah, à un moment donné, c'est vrai qu'on a senti que c'était le moment de, bah, d'enregistrer cet album. Je lui ai envoyé un mail et il se trouve qu'il a répondu dans l'heure. Alors bien sûr, j'ai sauté au plafond et très enthousiaste. Et puis il m'a dit, ce serait quoi ton l'album de tes rêves, your dream album. Et donc bah, je lui ai expliqué voilà, que j'étais à la recherche, en tout cas pour les racines de cet album, le côté Stax, voilà, très vieux sud, la soul, la simplicité qui marque...
Alors pas ça. Motown, Stax, donc un peu plus crade.
Oui.
Oui. D'accord. The Gypsy Soul of T.Y.O., le terme gypsy qui donne une petite idée aussi de votre orientation, de votre manière de penser la vie et les choses, c'est-à-dire la bohème.
En fait, ce terme gypsy, ça, bah, ça vient de Marx. Et un jour, il m'a appelé comme ça. On était en studio là-bas et puis il m'a dit « You look like a gypsy ». Et parce que bon, j'ai enregistré avec des musiciens locaux et donc les mecs faisaient 2 mètres et tout. Et puis bon, moi, je suis petit brun et tout machin. Donc je pense que c'est un rapport aussi à mon physique. Alors du coup, il me dit... Et puis c'était aussi pour renvoyer à effectivement bah, aux diverses influences qu'il y a dans ma musique, aux couleurs que je vais chercher à droite et à gauche, dans la musique jamaïcaine... Dans certaines choses qui se passent en Europe aussi, et puis dans la soul, donc cette soul qui voyage et qui se nourrit de différentes influences.
Est-ce que vous connaissez l'autre invité de cette émission, Giovanni Ceccarelli ?
De nom.
De nom ?
Oui.
Oui, et vous, Giovanni, est-ce que vous aviez entendu parler de ce jeune homme, de T.Y.O. ?
Je viens de le rencontrer ce matin, mais j'ai beaucoup aimé
cette émission musique. Sert à ça, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se rencontrent, qui se connaissent pas, qui se croisent dans des festivals ou dans des plateaux télé, radio, et puis on n'a pas toujours le temps de s'intéresser à ce que font les autres musiciens. Donc Giovanni Ceccarelli, vous êtes invité parce qu'il y a un album qui sort autour du répertoire de Tom Jobim, mais ce que je vous propose avant d'en parler, c'est que vous vous rendiez vers le piano qui vous fait de l'œil de manière assez malicieuse depuis un moment, et je vous laisse vous arranger avec lui. C'est un quart de queue très combatif. Avec Monsieur plaisir. Ceccarelli, au piano, dans la session live de ces musiques du monde. Ceccarelli sur RFI dans les musiques du monde. Giovanni Ceccarelli était au piano pour présenter ce nouvel album avec son camarade Daniele Di Bonaventura. C'est Eute Amo, ce sont les musiques de Tom Jobim. Giovanni, vous êtes venu tout seul, c'est un projet au départ bandoneon piano, et avec quelques voix invitées et pas des moindres. Là, vous êtes venu tout seul aujourd'hui, est-ce que vous arrivez malgré tout à restituer l'atmosphère de ce nouvel album tout seul? Est-ce qu'un piano seul peut faire transpirer l'esprit de Tom Jobim?
Je pense que... Déjà, l'approche que moi et Daniel et que nous avons dans la musique, c'est chercher vraiment de faire sortir la mélodie et faire chanter la musique. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire, un piano solo. Et la musique de Jobim est une musique qui a des mélodies tellement inspirées. On se laisse transporter par cette musique si dense, si riche.
Vous attaquez, j'allais dire, un morceau historique du patrimoine brésilien. Tom Jobim vous berce depuis que vous êtes jeune homme, en fait, même adolescent. Vous avez découvert la musique brésilienne en même temps que le jazz, quasiment.
Oui, exactement. Plus ou moins à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à écouter la musique brésilienne et Jobim en premier. Et en même temps, Bill Evans et les grands du jazz. C'est vraiment une passion qui date plus ou moins en même temps que le jazz, qui m'a passionné pour le jazz.
Vous habitez à Paris depuis combien de temps, Giovanni? Je rappelle que vous êtes italien.
Oui, je suis à Paris depuis 2006. Après, j'ai passé 4 ans à l'étranger, entre 2010 et 2014. Donc,
quel voilà. Étranger?
Et j'étais au Moyen-Orient.
Oui,
j'étais
où ça?
Un an en Syrie et 3 ans au Liban.
Pour le travail?
En fait, ma femme est chercheuse en histoire, de l'histoire médiévale des pays arabo-musulmans. Et donc, on était censé passer 4 ans à Damas. Et au bout d'un an, en fait, quand la révolution a déclenché avec toutes les conséquences dramatiques qu'on connaît, on a été déplacé à Beyrouth.
Sur cet album que vous avez concocté avec Daniele Di Bonaventura, un album entièrement consacré à Tom Jobim, vous avez choisi un répertoire que même les Brésiliens ne connaissent pas forcément. Vous êtes allé chercher des morceaux pas très connus de Tom Jobim, ce qui est un luxe, hein, parce que normalement Tom Jobim, tout le monde connaît. Enfin, je veux dire, ce sont des morceaux de la musique classique du XXe siècle, quoi. Comment vous avez organisé votre recherche
En fait, on a... tout de suite choisi de, pas par manque de respect, mais juste à la place de jouer les grands classiques de Jobim qui sont très connus dans le monde, on est allé chercher dans ce répertoire si riche, si immense, et on a trouvé des morceaux qui aussi s'adaptaient mieux à notre duo,
bandoneon
et piano, oui, oui. Et donc des morceaux qui peut-être ont une nature plus instrumentale, des mélodies qui sont plus qui sont des mélodies avec des paroles toujours, mais qui ont une nature des caractéristiques de la mélodie qui est très riche, très qui se prête très bien à être arrangée pour un duo comme le nôtre.
Et le fait, voilà, aussi de prendre des morceaux un peu moins connus, ça évite aussi la comparaison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont repris Jobim et Moraes, donc ouais. Évidemment, faire un disque de plus, ça n'a strictement aucun intérêt, donc vous avez suivi une piste vraiment intéressante. Tiwayo, l'autre invité de l'émission, vous connaissez maintenant depuis quelques secondes, vous êtes donc de grands amis, comme sur les réseaux sociaux. On va retourner un peu aux sources, Rémi, enfin Tiwayo, avec un extrait de ce premier album signé chez Blue Note, on y reviendra. Moi j'ai choisi Rise Up and Shine parce que ça me rappelle un peu, pas vos débuts, enfin en tout cas nos débuts à nous deux. Quand on s'est rencontrés, vous étiez dans le reggae avec Fire Dub, c'était vos amis. Et je me suis dit qu'un peu de Jamaïque, ça pouvait pas faire de mal à cette émission, ni à vous d'ailleurs. Rise up and shine. Lying for work gives no attention. Rise Up and Shine, cet extrait du premier album de T.Y.O., de Gypsy Soul of T.Y.O. Vous nous racontez comment s'est passé l'enregistrement de ce morceau, par exemple ?
Ouais, bah, en plus, ça me faisait marrer en réécoutant.
Pourquoi ?
Comme je vous racontais, j'ai enregistré cet album dans le vieux sud des États-Unis. Donc, j'ai un producteur qui est traditionnellement quand même d'une école très blues rock, soul. Et donc, je suis arrivé avec ma dégaine et tout. Et puis, ce morceau reggae, cette manière de chanter vraiment, qui est vraiment inspiré des grands chanteurs et toasters jamaïcains. Bon, ça l'a fait marrer et il a adoré. Il a mis sur la platine un gros Desmond Dekker. Et il s'est mis à groover. C'est vraiment un mec qui a la banane et tout, style rockabilly. Et franchement, c'était trop génial parce que, en plus, quand je réécoute ce morceau, au final, il y a ce côté garage reggae. Et il y a vraiment ce mélange avec ce basse-batterie super fat. Et voilà, je trouve que l'histoire est marrante d'enregistrer un morceau comme ça. Bon, moi, je viens de région parisienne. Je vais dans le vieux sud, en Géorgie, enregistrer un truc qui a ses fortes inspirations jamaïcaines. Voilà, bon, c'était un mélange assez sympa.
Et qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre voix ? Parce que c'est pas la première fois que vous allez aux États-Unis. Est-ce qu'ils sont surpris par ce grain de voix particulier ?
Bon, ce qui a été super avec Marc, c'est que bon, lui, il est quand même, il a un côté très soul dans son approche de la musique et c'est quelqu'un qui a vraiment cette tradition des studios du sud des États-Unis. Bon, Stax, mais aussi bon à Memphis Sun Records et tout. Donc, et la musique jamaïcaine, enfin le reggae. Bon, c'est cette soul en fait, c'est cette soul avec la touche et la rythmique jamaïcaine, mais dans ma voix, je pense qu'il a, il a entendu ses influences et puis cet amour que j'ai pour ses musiques. Et il a aimé, et il m'a encouragé à essayer de sortir cette soul quoi, sur cet album.
T.Y.O., en étant chez Blue Note Records, vous êtes devenu collègue de travail de Sidney Bechet, d'Herbie Hancock, de Art Blakey, de Thelonious Monk, de Sonny Rollins, plus récemment Tony Allen, Jeff Mills, Marcus Miller, Gregory Porter, ça va ? Ils sont pas trop encombrants, vos collègues de bureau ?
C'est bien sûr génial, c'est comme un peu la continuation de ce rêve qui se réalise. Bon, on est revenu aux États-Unis, on a démarché un certain nombre de labels ici en France et c'est chez Blue Note qu'il y a eu une accroche. Et ce qui a été génial, c'est que ils m'ont pris comme j'étais, voilà. Et c'était, l'album n'était pas fini, c'était l'étape des rough mix, donc c'était très brut encore, puisque et voilà. Et ils ont senti, parce que c'est vrai que moi j'ai grandi dans une famille où on a écouté beaucoup de jazz, beaucoup de blues par mon père, et puis j'ai toujours aimé les musiciens, comme tu sais, les musiciens de jazz, les musiciens de blues, et j'aime le joie, j'aime le jeu, et me retrouver dans cette famille, c'est incroyable, c'est un encouragement et je suis très reconnaissant de ça.
Ouais. Giovanni Ciccarelli, quelle est votre famille musicale ? Parce qu'on a compris d'où venait T.Y.O., mais vous ?
Moi, mon père a toujours joué de la musique. Il a pas, c'était pas vraiment sa profession, même s'il s'est payé ses études d'université en jouant de l'accordéon. Et elle a toujours aimé en Italie, en centre d'Italie, dans une ville qui s'appelle Fabriano. Et il y a eu toujours de la musique chez nous. Et donc, après, mon père aussi, il a organisé des concerts de musique classique pendant toute sa vie, une saison de musique de chambre dans cette petite ville. Et donc, voilà, j'ai grandi un peu en connaissant les musiciens, en allant dîner avec les musiciens. Et voilà.
Et donc, vous êtes dans cette atmosphère de mélomane. Est-ce que ça vous conduit au conservatoire ou vous pianotez, enfin, vous travaillez chez vous en autodidacte?
Moi, je me considère un autodidacte, dans le sens que les choses essentielles de la musique, je pense, après les cours de piano que plus ou moins tout le monde prend,
les cours particuliers.
J'ai pris des cours quand même, mais. Je me suis formé à la maison avec les albums, en écoutant, en relevant les solos et en essayant de s'approcher à ce monde mystérieux de la musique et après la musique improvisée, le jazz.
Est-ce que le reggae est un monde qui vous est totalement étranger?
Bah, pour moi, Bob Marley, c'est comme parler de Mozart au Jobim, c'est les grands artistes qui sont dans le monde.
Vous allez nous montrer que vous aussi vous êtes un grand, vous retournez au piano et cette fois-ci vous allez interpréter le titre Imagina, si ma mémoire est bonne.
Exactement, oui.
C'est ça? Merci, on n'a encore pas trop vieilli dans cette émission. En fait, on rajeunit de quelques secondes à chaque extraordinaire. Sur RFI dans les musiques du monde.
La session live. Musique du monde. Sur RFI.
Alors, le titre Imagina que vous venez d'interpréter, Giovanni Ceccarelli est une composition et parole aussi Chico Buarque et dans l'aventure Tom Jobim. Alors, ces deux-là ont, enfin, surtout Chico Buarque, un rapport avec l'Italie, parce que le papa, qui était historien et sociologue, était en poste à Rome à l'université. Et comme Vinicius de Moraes était lui secrétaire d'ambassade à Paris, ils se sont rencontrés en Italie. Enfin, vous voyez, le Brésil, Paris, Rome, c'est assez simple finalement. C'est pas la première fois que vous reprenez du Tom Jobim. Vous avez fait un album avec votre trio qui s'appelait Météor. De mémoire, vous aviez déjà repris ce monsieur. Tom Jobim, pour vous, est-ce qu'on peut dire qu'il représente une musique classique du XXe siècle? Un peu comme un Ravel?
Absolument, oui. Et Tom Jobim aussi tenait à se déclarer comme faisant partie d'une lignée, d'une famille qui part de Héctor Villa-Lobos, qui arrive à Jobim. Et dans une introduction à un livre d'un autre, de partition d'un autre grand musicien brésilien qui est Edu Lobo, Tom Jobim déclarait à Edu Lobo « Moi, je suis le fils de Villa-Lobos et toi, tu es mon fils. » C'est comme créer une lignée de la musique brésilienne, cette extraordinaire musique qui est musique classique et en même temps très liée au folklore et à la musique populaire. C'est ça la force, je trouve, de la musique brésilienne, c'est ce lien. Donc il n'y a pas de musique de première classe et de deuxième classe. Les musiciens se nourrissent du folklore. Et je veux juste dire une petite chose sur Chico Buarque aussi. J'ai eu l'occasion et l'honneur de collaborer avec lui parce qu'il y a quelques années, avec mon groupe Inventario, on a fait un album avec Ivan Lins, qui est un autre grand compositeur brésilien. Et Chico Buarque a participé à l'album en chantant un morceau qu'il avait composé avec Ivan Lins. Et c'est un album qui a eu beaucoup de chance parce qu'il a été nommé au Latin Grammy Awards en 2014.
Ivan Lins, qu'on écoutera en toute fin d'émission, parce qu'il a travaillé sur deux morceaux, enfin il chante sur deux morceaux sur cet album que vous avez fait avec Daniele Di Bonaventura. De la même manière que je demandais tout à l'heure à Giovanni s'il avait vécu un peu côte à côte, à côté du reggae, de la Jamaïque, si c'était une musique qui lui était familière, parce que les chemins sont différents. Est-ce que vous connaissez le continent sud-américain? Est-ce que le Brésil, la bossa nova, ça vous parle? Ou vous, c'est vraiment plutôt Jamaïque et sud des États-Unis?
C'est vrai que je méconnais un petit peu ce coin-là. Mais j'avais un copain à la fac qui était guitariste, super guitariste, et qui jouait justement cette musique-là. C'était un super guitariste. Donc je la connais un petit peu au travers lui et au travers de quelques vinyles que j'ai à la maison. Mais je ne connais pas bien. Après, je reconnais dans cette musique, disons, le jazz, une partie du jazz que je connais.
Tous les deux, vu les goûts et les chemins que vous empruntez, je me demande, est-ce que ça vous aurait plu d'être un jeune homme dans les années 50 au Brésil, vous, Giovanni? Je ne sais pas, de voir Vinicius de Moraes avec son Orphée sous le bras, courir derrière Tom Jobim pour qu'il lui fasse une musique, et puis finalement, c'est Michel Legrand qui arrive en France avec le film, qui sera couronné à Cannes, aux Oscars, Orfeo Negro.
Moi, je ne suis pas nostalgique, hein, mais c'est vrai que c'était une période très créative dans la musique. Et il y avait aussi un contact, un respect parmi les musiciens. Donc, Michel Legrand qui débarquait à New York pour faire son album avec une big band extraordinaire. Jobim qui en fait, a commencé à être vraiment respecté au Brésil après que les États-Unis lui ont donné aussi une certaine reconnaissance.
Comme d'hab.
Et en tout cas, je veux aussi dire une chose, c'est que je pense que la musique montre que le mélange entre les cultures, c'est ça qui donne le goût à ce monde. Donc, je pense que la musique est c'est la démonstration de comment le mélange de cultures est quelque chose qui nous nourrisse tous et qui nous enrichit. Voilà.
Tiwayo, vous, dans les années 50, au sud des États-Unis?
Je sais pas, c'était...
Vous étiez une hypothèse à l'époque. Hein. Papa-maman ne s'étaient même pas rencontrés. Donc, vous aviez peu de chances d'arriver sur Terre et vous y êtes quand même.
Je sais pas, après, c'est-à-dire que les États-Unis, bon, pour y être allé régulièrement depuis une dizaine d'années, en partie amené par ma passion pour la musique américaine et la musique afro-américaine, c'est aussi quand même un monde très violent. Hein. C'est très violent et c'est aussi ce qui... C'est étrange, là j'étais en Californie par exemple cet été, donc de l'autre côté, et on sent la violence, c'est une violence qui est large et qui, qui donne naissance à ces musiques qui sont géniales. Donc je sais pas trop si ça m'aurait branché là-bas, parce que je pense que c'était assez rough aussi dans les années 50. Voilà.
Je vous propose de retourner vers votre tabouret, Tiwayo, pour interpréter le titre Wild, qui est extrait donc de ce premier album qui s'intitule The Gypsy Soul of Tiwayo et qui est sorti chez Blue Note Records. Tiwayo sur RFI.
Live. Sur RFI.
The Gypsy Soul of Tiwayo, premier album de Tiwayo. Le titre qu'il vient d'interpréter en guitare-voix s'appelle Wild, Sauvage. J'ai l'impression que c'est un peu la quintessence de votre parcours, de votre processus de création, le rêve américain, aller toujours plus à l'ouest. Vous allez finir au Japon si vous continuez les pieds dans l'eau, mais bon. On parle de rêve américain depuis le 20e siècle, mais pour vous, qu'est-ce qu'il représente au fond? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous êtes originaire de banlieue parisienne. Qu'est-ce que l'Amérique vous a apporté? C'était les films, c'était les bouquins, c'était la musique, et que la France ne vous apportait pas, ou l'Europe?
Bon, c'est-à-dire que ce qu'il y a, c'est que comme j'ai reçu beaucoup de blues et de jazz par mon père, et donc à 16 ans, quand j'ai la première musique que j'ai pris, bon voilà, ça a été le reggae, c'était mes premières, c'est le moment où j'ai commencé la musique, les manières dont j'ai appris la musique, donc comme dans le reggae, bien sûr Bob Marley, donc qui est sûrement l'artiste dans lequel j'étais le plus fan, vraiment au grand sens, du terme, où je connais tous les albums, etc. Et quand je me retourne dessus aujourd'hui, c'est toujours la même chose. J'entends cette musique comme un gamin. Donc, après, il y a eu la soul. Je pense que c'est une autre manière d'exprimer les sentiments du quotidien que l'a fait, par exemple, la musique française. Et aussi, le truc, c'est qu'il y a cette foi que j'ai découvert dans mon premier voyage, qui n'était pas aux États-Unis, mais en Haïti à 16 ans. Et ça, c'est un truc qui m'a pris aux tripes, à ce moment-là, la découverte de la foi et puis ces thèmes, cette spiritualité qu'il y a dans ces musiques.
Et vaudou.
Alors, j'ai pas assisté à de cérémonie vaudou, heureusement, parce que je sais pas comment j'aurais fini. Bon, enfin, je sais pas, mais j'ai vu les gens, la force de, effectivement, de la foi dans ces musiques. C'est un truc qui m'a pris, aux tripes gamin. Et puis, je suis revenu en France. Et puis, après, j'ai rencontré plein de musiciens. Et les États-Unis, dans tout ça, je sais pas, c'est une culture qui est tellement présente aujourd'hui. Je veux dire, par les séries, les films, la musique. Moi, c'est surtout une musique qui m'a parlé. Et aussi la poésie américaine, la manière d'exprimer les idées, que ce soit dans le blues, dans la soul ou dans le gospel, c'est ce vocabulaire aussi dans lequel je me suis reconnu pour exprimer après ma vie, mes expériences.
Vous avez été piqué par un mystique, excellent. Bon, est-ce que sa voix irait bien sur de la bossa nova, à votre avis, Giovanni Ciccarelli? La voix de Tiwayo, est-ce qu'il a une voix, est-ce qu'il pourrait chanter de la bossa nova? Parce qu'il a un grain particulier.
Oui, si moi je peux la jouer, c'est sûrement lui aussi peut la jouer. Parce que moi je viens pas de Rio. Hein.
Oui, c'est vrai, mais je sais pas, il y a peut-être des timbres, des tessitures, enfin je sais pas. Qui...
Moi je pense que exactement l'élément qui sort du standard, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on ne fait pas un exercice de style, sinon notre album, notre hommage... Imaginez combien d'hommages à Jobim il y a eu dans l'histoire de la musique. Si on commence à penser à ça, on s'arrête tout de suite. Mais on croit qu'il y a la foi, justement la foi de croire qu'on peut dire quelque chose de personnel sur cette musique. Après, c'est aux autres de juger, mais... Nous, on cherche cette sincérité d'approche.
Tiwayo, le 5 mars, vous serez à la Maroquinerie en concert à Paris pour la sortie de cet album. Vous serez combien sur scène?
Ah bah là, on sera, on est 6, 7 sur scène, basse, batterie, clavier, deux choristes, deux superbes choristes et donc moi, guitare-voix.
Deux superbes choristes, hommes ou femmes?
Femme.
Oh bah évidemment, classique.
C'est bien que d'ailleurs, parce que comme on se connaît depuis un petit bout de temps, et vraiment d'intégrer des femmes dans les groupes, c'est bien, hein. Franchement, ça fait du bien.
Ah parce que vous en avez marre de l'odeur des chaussettes dans les classes, dans les bus tours. Enfin,
c'est une autre sensibilité, ça apporte quelque chose d'autre.
Tu m'étonnes. Après, je suis une convaincue. On va terminer avec un extrait de cet album entre Daniele Di Bonaventura au bandoneon qui n'est pas là aujourd'hui et Giovanni Ciccarelli qui lui est là au piano. Ça nous arrange quand même un petit peu pour parler de cet album. Avec le titre Brigas Nunca Mais, ce qui veut dire les luttes ou les disputes, plus jamais ça. Je ne sais pas dans quel contexte a été écrite cette chanson. En tout cas, beaucoup l'ont chanté, Jean Gilberto, Elis Regina. Et alors sur ce disque, vous avez évité. C'est un tronc lapsus. Est-ce qu'il y a des freudiens lacaniens dans la salle? Ivan Lins. Alors, Ivan Lins, c'est un immense compositeur, chanteur, musicien brésilien. Lui, il est né dans les années 40, c'est juste pour situer un peu le personnage. Et dire aussi que c'est un des musiciens qui était le plus repris aux États-Unis derrière Tom Jobim. Il a été chanté par Sarah Vaughan, il a été chanté par Ella Fitzgerald, Quincy Jones, George Benson ont repris ses titres. C'est pour vous dire un peu le niveau du bonhomme. Et vous avez eu ce plaisir, privilège, oui, mais lui aussi a eu le privilège de travailler avec vous. Ça va dans les deux sens. Ivan Lins, c'est un homme facile à aborder. Reprendre du Tom Jobim, pour lui, c'est monnaie courante. Enfin, qu'est-ce que vous lui dites pour lui donner envie de jouer avec vous, de chanter avec vous?
Alors, après l'album que j'avais enregistré avec Ivan Lins en 2012, en fait, lui, il avait déjà apparu dans un premier album de mon groupe Inventario en 2010. Il avait enregistré un morceau avec nous. Et après, donc, l'album entier avec lui qui s'appelle Inventario Incontri Ivan Lins. Et un jour, donc, je lui envoie un mail en lui expliquant qu'avec Daniele Di Bonaventura, qu'à l'époque, Ivan ne connaissait pas, on avait l'intention de faire un hommage à Jobim. Que justement, l'intention était de reprendre les compositions moins connues de Jobim. C'est ça qui l'a fait accrocher au projet, en fait. Et je lui ai demandé s'il avait envie de participer en chantant un morceau, et il a répondu avec deux morceaux. Donc, et c'est lui qui a choisi dans notre song list les deux morceaux, donc « Brigas Nunca Mais » et un autre morceau qui après est devenu le titre de l'album, qui est « Eu Te Amo », Tom Jobim et Chico Buarque. Je peux aussi dire deux mots sur les autres invités, parce que c'était vraiment
Camille
un plaisir.
Camille Berthaud et Jacques Morel-Embon, oui, on allait y venir, mais c'est bien que vous vous y mettiez.
Oui, donc Jacques Morel-Embon était Daniel et qui l'a impliqué dans le
alors,
projet.
Jacques Morel-Embon, c'est un compositeur, violoncelliste, très très important aussi au Brésil. Son nom est lié à celui de Caetano Veloso, mais aussi à Tom Jobim. Donc c'est parti des ayatollahs de la bossa nova. Mais ayatollah n'est pas le bon terme. C'était pour rire, c'était une blague. Voilà, vous pouvez poursuivre, Giovanni.
Donc Jacques aussi, il a été enthousiaste de participer à ce projet. Et après, quand l'album a abordé chez Bonsaï, donc quand Pierre Darmon a accepté de le faire sortir avec son label, c'était une proposition de Pierre d'impliquer Camille Berthaud. Et c'était vraiment une super expérience aussi de travailler pour la première fois avec elle. Et donc on est très heureux de les avoir dans cet album qui en fait inclut des morceaux en solo. Il y a des pianos solo, des bandoneons solo, des morceaux en duo et après les invités.
Merci Giovanni Ceccarelli. Je rappelle que votre album s'appelle Eu Te Amo, la musique de Tom Jobim. Et Tiwayo, c'est The Gypsy Soul of Tiwayo avec concert maroquinerie 5 mars. De l'autre côté de l'aquarium, il y avait Taguim Fatraoré, Mathias Taylor et Benoît Le Tyran. Merci infiniment. Applaudissez-vous, vous avez été très bien. Vraiment.
Chegou, sorriu, venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza e na certeza de que o amor tem dessas fases, mas e é bom para fazer as pazes, mas depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu e o nosso amor mostrou que veio pra ficar. Mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz. Brigas nunca mais. Música. venceu, depois chorou. Então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases, mas é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dela precisou, e ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais.
Daniel et Tiwayou sont encore là, ils sont partis, donc j'ai encore quelques minutes pour vous glisser un extrait du tout nouvel album des légendaires jamaïcains Ina De Yard. Cédric Mitton reprend Raw Fisherman, qu'il chantait déjà en 91 avec les mythiques The Congos. Inimitable Cédric, à déguster sur pied le 15 juin à Paris, à l'Olympia.
Raw Fisherman, Raw. Keep on rowing your boat,
waterman, waterman,
row, fisherman, row. Lots of hungry belly picking ashore, lots of hungry belly picking.